VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manilakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du vendredi 22 septembre 2017. Voici d'abord le sommaire. Double explosion d'origine criminelle à Douala au Cameroun. Pas de victimes à signaler. Report de la présidentielle au Kenya sans conséquences sur les institutions actuelles à Nairobi. L'escalade verbale entre Donald Trump et Kim Jong-un atteint un nouveau pic. Les inégalités de revenus en Afrique subsaharienne.
Il faut diversifier l'économie, transformer l'économie. L'industrialisation est très faible en Afrique, mais plutôt l'industrie de pointe, les nouvelles technologies et le secteur des services, le secteur financier.
L'OPNUD recommande aux États de revoir leurs copies. Les embouteillages à Dakar, un casse-tête quotidien.
Voilà, nous sommes ici au niveau du rond-point de Cameroun. C'est saturé en ce moment, la grande affluence, beaucoup de véhicules en provenance de la banlieue.
Vous suivrez le récit de Valentin Compaoré. Retrouvez Nicolas Pinault pour votre page d'espoir et Yacouba Ouédraogo pour l'actualité économique juste après le journal. Au Cameroun, une double explosion a frappé la ville de Douala dans le sud. Elle constitue le poumon économique du pays. Le point sur place avec Emmanuel Jules Ntap.
L'explosion de ce matin a provoqué un vent de panique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la société camerounaise des dépôts pétroliers. Un site sensible situé aux encablures d'un marché populaire, le marché Mbopi, très fréquenté à Douala. La bombe de fabrication artisanale a été concoctée avec l'aide d'une bouteille de gaz. Après l'explosion, les employés de la SDP qui s'apprêtaient à vaquer à leurs occupations ont été évacués. Les experts camerounais en explosifs sont descendus les premiers sur le terrain, ainsi que les forces de l'ordre et de sécurité. C'est le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaha Dibois, qui annoncera à la presse que le type de matériaux utilisés s'apparente à ceux dont font usage les terroristes ailleurs. Aucune revendication n'a été faite jusqu'ici. Yaoundé, Emmanuel Jelutap, VOA Afrique.
Cameroun, toujours plusieurs milliers de séparatistes favorables à la partition du pays ont manifesté pacifiquement aujourd'hui dans les régions anglophones. Les autorités de la région du Nord-Ouest, épicentre de la contestation, ont interdit hier toute manifestation. Au Kenya, le report de la présidentielle n'entraînera pas de crise constitutionnelle. Le scrutin du 8 août, invalidé par la Cour suprême, devait être repris le 17 octobre, mais les responsables électoraux l'ont reporté au 26. Gabi Dorsil pour les détails.
Le procureur général Guito Muigai en a donné l'assurance ce vendredi lors d'une conférence de presse à Nairobi. Il a affirmé que le président Uhuru Kenyatta peut rester à son poste jusqu'à la prestation de serment du vainqueur de la présidentielle. Sa prise de position intervient au moment où l'opposition et certains analystes exprimaient des doutes sur la légitimité du gouvernement en cas de non-tenue du vote. Selon le procureur, il n'y aura donc pas de vacances présidentielles. Maître Muigai a aussi indiqué que la formation d'un gouvernement d'union nationale serait illégale. Pour rappel, la Cour suprême kenyane a pris le 1er septembre dernier la décision historique d'invalider les résultats favorables au président sortant Uhuru Kenyatta. Le recours avait été introduit par le principal candidat de l'opposition, Raila Odinga, qui a sévèrement critiqué la commission électorale et réclamé sa recomposition. La Cour suprême a aussi blâmé l'institution pour de graves irrégularités dans le scrutin du 8 août.
Gabi Dorsil. Au Nigeria, les combattants de Boko Haram ont tué 9 personnes résidant dans un camp de déplacés dans l'extrême nord-est du pays. Les douanes nigérianes ont rencontré l'ambassadeur de Turquie à Abuja pour tenter de stopper les importations illégales d'armes en provenance de ce pays. Près de 3000 fusils à pompe ont été saisis dans le port de Lagos depuis le début de l'année. Ce géant d'Afrique de l'Ouest connaît un climat d'insécurité générale de plus en plus difficile. L'OACR demande à la France de clarifier au plus tôt le nombre de réfugiés que Paris projette de venir chercher en Afrique pour les réinstaller. Le 28 août dernier, le président Emmanuel Macron proposait d'identifier au Niger et au Tchad le nombre de ressortissants ayant droit à l'asile pour les mettre en sécurité le plus rapidement possible, le tout sous supervision du HCR. L'envoyé spécial du Haut Commissariat de l'ONU, Vincent Cochetel, a précisé que 83 500 au Tchad et 10 500 au Niger sont vulnérables et ont besoin d'un transfert. L'absence du président tchadien Idriss Déby Itno à l'Assemblée générale des Nations unies à New York suscite des spéculations. Un responsable du parti au pouvoir parle de raisons intérieures. Les bruits de bottes dans l'extrême nord et dans l'est du Tchad inquiètent M. Déby, mais une autre source au palais invoque plutôt une autre raison plus politique. Le président tchadien fait chantage aux Occidentaux pour qu'ils mettent des moyens à sa disposition pour le G5 Sahel. Les chefs d'État du G5 Sahel devaient étudier le financement de la force anti-djihadiste en marge de l'Assemblée générale. Au Sénégal, le chef de la confrérie musulmane des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy, est décédé aujourd'hui, 6 mois après avoir succédé à son frère. Cette confrérie est l'une des plus importantes du pays. Le président Macky Sall, tout juste rentré de l'Assemblée générale de l'ONU, devait se rendre dans l'après-midi à Tivaouane, fief de la confrérie. Suivant la tradition, le nouveau calife général des Tidianes et l'actuel porte-parole de la confrérie, Serigne Mbaye Sy Mansour, cousin du défunt. Le principal leader d'opposition ougandais, Kizza Besigye, a condamné la répression policière des opposants qui protestaient contre la suppression de la limite d'âge inscrite dans la constitution actuelle. Elle impose aux candidats à la présidentielle d'être âgés de 35 à 75 ans. Cette limite d'âge est le seul moyen qui pourrait pousser M. Museveni, qui dirige ce pays depuis 1986, à rendre le pouvoir pacifiquement en 2021. Au Soudan, 3 personnes sont mortes au Darfour pendant des affrontements entre forces gouvernementales et des résidents d'un camp de déplacés. Le président Omar el-Béchir est en visite dans cette région meurtrie par la guerre. L'intention de Paris de rendre gratuit la visa entre l'île française de Mayotte et les Comores voisines fait monter la tension. Mayotte connaît déjà une forte pression migratoire et veut prendre des actions. Associations citoyennes, personnalités de l'île et élus ont exprimé leur colère et s'opposent à une feuille de route visant à assouplir les règles de circulation entre les deux îles de l'océan Indien et prévoit la délivrance par la France de visas gratuits aux ressortissants des Comores afin de lutter contre le trafic d'êtres humains et de tarir les passages illégaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'escalade verbale entre Donald Trump et Kim Jong-un a atteint un nouveau pic aujourd'hui. Le président américain a qualifié le leader nord-coréen de fou en réaction à l'évocation par Pyongyang d'un possible essai de bombe H dans le Pacifique. Anastasie Toudièche.
Quelques heures avant le tweet présidentiel américain, c'est le leader nord-coréen qui s'était livré à une attaque très personnelle en réaction à la menace de destruction totale de la Corée du Nord proférée par Donald Trump à la tribune de l'ONU. Le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs annoncé qu'il avait signé un ordre exécutif interdisant aux entreprises faisant des transactions avec la Corée du Nord de travailler avec les États-Unis. Trump m'a insulté, moi et mon pays, sous les yeux du monde entier, et a livré la plus féroce déclaration de guerre de l'histoire, a déclaré Kim Jong-un. « Je disciplinerai par le feu le gâteux américain mentalement dérangé », a-t-il ajouté. Pour la Chine, la négociation est la seule solution et elle appelle tous les acteurs à se réunir. Moscou a joué l'équilibre, critiquant les menaces martiales américaines, tout comme l'aventurisme de Pyongyang.
Anastasie Toudièche. L'ouragan Maria a poursuivi au large des îles Turques et Caïcos sa trajectoire dévastatrice dans la Caraïbe après avoir ravagé Porto Rico avec des vents soufflant à 250 km/h, fait une trentaine de morts au total et causé des dégâts considérables. Les précisions de Jacques Aristide.
Le bilan humain du second ouragan de très forte puissance a balayé la Caraïbe ce mois-ci après Irma, s'établit désormais à 32 morts, 15 à Porto Rico, 14 sur la petite île de la Dominique, 2 en Guadeloupe et 1 dans les îles Vierges. À Porto Rico, l'île entière est privée d'électricité et les dégâts matériels sont énormes. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'île avait été totalement anéantie. Les services fédéraux d'urgence ont commencé à travailler à la reconstruction, a-t-il dit, ajoutant camp qu'il envisageait de se rendre sur l'île. Maria, après avoir faibli, a retrouvé ce vendredi un statut d'ouragan majeur menaçant les îles Turques et Caïcos. La tempête devrait en revanche éviter les États-Unis, au contraire à Irma qui a dévasté la Floride. Sur son passage, l'ouragan Maria a inondé la Guadeloupe et la Martinique, les deux grandes îles des Antilles françaises. Septième ouragan de la saison, Maria a en particulier frappé de plein fouet la Dominique. Ses 71 000 habitants sont pratiquement coupés du monde. Selon l'ONU, 95% des toits des maisons ont été arrachés ou endommagés. Maria a également ravagé les îles Vierges, passant à l'ouest de Sainte-Croix, où vivent la moitié des 103 000 habitants de ce territoire américain.
En Turquie, 21 personnes sont mortes dans un naufrage d'un bateau et l'Iran s'est dit déterminé à renforcer ses capacités militaires et balistiques et à poursuivre sa politique au Proche-Orient. Le président Rouhani fait fi des critiques des Occidentaux, principalement des États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Muniteco aujourd'hui, c'est signé Yacouba Ouédraogo.
Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD a lancé sa campagne baptisée Agenda 5% pour le développement des infrastructures en Afrique. Le programme vise à convaincre les fonds souverains de consacrer une plus grande part de leur investissement au développement des infrastructures sur le continent. L'organisme suggère de passer d'un taux actuel d'1% des actifs à une part plus significative de 5%. La banque sud-africaine Rand Merchant Bank a publié son classement annuel sur les pays les plus attractif en matière d'investissement en Afrique. Jusque-là dominé par l'Afrique du Sud, le classement consacre cette année l'Égypte comme destination la plus attractive sur le continent. L'Afrique du Sud est deuxième. Suivent le Maroc, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, la Tunisie et la Côte d'Ivoire qui clôt le top 10. Le Nigeria et l'Algérie, durement touchés par la baisse du cours du pétrole, sont les grands absents du top 10. La Banque africaine de développement a suspendu pour 3 ans la société malienne Entreprise de construction urbaine et rurale ECU de tous les projets financés par elle. L'entreprise est accusée d'avoir présenté un faux document de garantie bancaire en vue d'obtenir une avance pour un projet de réhabilitation routière au Mali.
Sans transition, nous passons au sport avec Nicolas Pinot. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Quart de finale retour de la Coupe de la Confédération, c'est la Coupe CAF, Nico.
Et dès ce soir, le CS Sfaxien accueille le FUS de Rabat après sa défaite 1-0 au Maroc. Les Corbeaux de Mazembe ont déjà un pied en finale après leur victoire 2-1 au Soudan face à Al Hilal Obied. La réception dimanche à Kamalondo s'annonce festive. Accroché à domicile à Pretoria 0-0, Supersport United se déplace en Zambie chez le Zesco. Les attaquants sud-africains devront se montrer plus adroits devant le but. Enfin, après l'ambiance tendue du match aller au stade du 5 juillet où des incidents ont eu lieu, le club africain devra battre le Mouloudia Club d'Alger.
Ce week-end, on joue également pour la Ligue africaine des champions.
Le Wydad Casablanca aura un but à remonter face aux champions en titre les Mamelodi Sundowns. À Alger, l'USM en ballotage favorable après son match nul un partout à l'aller au Mozambique chez le Ferroviaro de Beira. À Tunis, l'Espérance tentera de contrer la ferveur égyptienne d'Al Ahly qui doit impérativement l'emporter et se montrer très offensif après le match nul de partout à l'aller. Autre club tunisien, l'Étoile Sportive du Sahel devra se montrer beaucoup plus réaliste après le 0-0 obtenu en Égypte face à Al Ahly de Tripoli.
Et qui est le joueur FIFA de l'année, Nicolas ?
Cristiano Ronaldo, Neymar et Lionel Messi sont les trois finalistes de ce trophée du joueur FIFA de l'année 2017. Le lauréat qui sera connu le 23 octobre prochain à Londres succédera à Ronaldo couronné l'année dernière. Mais le Portugais est le grandissime favori à sa succession. À 32 ans, il a mené le Real Madrid au titre de champion d'Espagne la saison passée, mais surtout à une deuxième Ligue des champions de suite, la troisième à Cardiff en 4 ans. Quant à Neymar, 25 ans, il est devenu le joueur le plus cher du monde cet été après son transfert pour 222 millions d'euros du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Mais le Brésilien n'a remporté que la Coupe du Roi avec le Barça en 2017. C'est assez maigre, tout comme Lionel Messi, 30 ans, qui a quand même marqué 54 buts la saison dernière, mais lui aussi n'a remporté que la Coupe du Roi. Dans la catégorie meilleur entraîneur, Zinedine Zidane, sacré champion d'Espagne et double champion d'Europe avec le Real, fait figure de favori. Il fera face aux deux Italiens Antonio Conte, champion d'Angleterre avec Chelsea, et Massimiliano Allegri, finaliste de la C1 et triple vainqueur consécutif du doublé Coupe Championnat avec la Juventus Turin.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour aborder la seconde partie de cette édition, les dossiers du jour. Le PNUD a présenté hier son rapport sur les inégalités de revenus en Afrique subsaharienne. Le Programme des Nations Unies pour le Développement recommande aux États de remédier aux disparités de revenus pour atteindre les objectifs de développement durable. Eki Abadou a joint à Bamako un économiste du PNUD au Mali, Pecheye Diara.
Le rapport propose un certain nombre de pistes, mais les principales sont, par exemple, au niveau de l'agriculture, qui est un secteur important en Afrique, d'augmenter la productivité agricole, qui permettrait de réallouer de la main-d'œuvre de ce secteur vers les autres secteurs qui génèrent plus de revenus.
Vers d'autres secteurs comme lesquels?
Comme les secteurs de l'industrie, il faut diversifier l'économie, transformer l'économie. Vous savez, l'industrialisation est très faible en Afrique, mais plutôt l'industrie de pointe, les nouvelles technologies et le secteur des services, le secteur financier, des secteurs à haute valeur ajoutée où on pourrait investir et qui pourrait absorber le surplus de main-d'œuvre qui est dans l'agriculture. Ça, c'est une seule piste, mais que la protection sociale est aussi un facteur de réduction de l'exclusion.
Et en matière de protection sociale, on a quel...
Déjà, il y a les transferts, ce qu'on appelle les cash transferts, les transferts de revenus pour les plus vulnérables. Il y a les bons alimentaires que déjà beaucoup d'agences du système des Nations Unies appliquent en Afrique. Il y a la protection sociale qui est plutôt liée au travail. Parce que vous savez que ceux qui sont enrôlés dans ce système de protection sociale sont d'un nombre très faible en Afrique. Donc, il y a toute une série de politiques sociales qu'on pourrait faire pour réduire les inégalités et réduire les exclusions. L'investissement dans l'agriculture, l'amélioration de l'éducation et ajouter encore une bonne politique sociale pourrait à terme non seulement réduire les inégalités, mais permettre d'atteindre les objectifs du développement durable.
Y a-t-il un agenda pour mettre en œuvre les différentes recommandations de ce rapport?
L'agenda 2030 a un séquençage qui permet, après cette année où il fallait intégrer cet agenda dans les politiques nationales, de trouver des accélérateurs à partir de 2017 qui permettraient d'atteindre très vite les objectifs du développement durable. La communauté internationale a un défi. Cet agenda se fonde sur le principe de ne laisser personne pour compte.
Pecheye Diara, économiste auprès du PNUD au Mali. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a appelé la communauté internationale à renforcer la MINUSCA pour reprendre le contrôle des zones sous influence de groupes rebelles. Il s'adressait à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La violence armée continue dans les régions riches en ressources naturelles que se disputent les milices. Malheureusement, le gouvernement de la RCA peine à mettre en place le processus de réconciliation et de consolidation de la paix. Nathalie Barge a joint Bangui, le président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme et conseiller juridique à la Cour pénale internationale, maître Mathias Moruba.
Sur le terrain, nous continuons à assister à des violences de tout genre sur des personnes civiles particulièrement, sur les personnes vulnérables, notamment les enfants, les femmes ou les personnes de troisième âge qui n'ont pas les possibilités pour se défendre et qui malheureusement sont exposées à la violence des seigneurs de guerre en République centrafricaine. Et ce qui ne nous facilite pas la tâche pour surtout avec la rentrée scolaire qui est en cours. Dans certaines zones, les enfants n'arrivent pas à reprendre le chemin de l'école simplement parce qu'il y a l'insécurité sur la quasi-totalité de la République centrafricaine. Il y a quelques préfectures qui ne sont pas touchées, mais le reste c'est pratiquement occupé par des personnes qui commettent des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité, des violences basées sur le genre et qui sont demeurées jusqu'aujourd'hui impunis.
Le président centrafricain a appelé l'ONU à la tribune de l'Assemblée générale à renforcer et augmenter les effectifs de la MINUSCA, notamment pour reprendre les zones qui sont contrôlées encore par certains groupes armés. Quel est votre point de vue sur cette question ?
La question qui se pose, est-ce qu'il s'agit du nombre ou est-ce qu'il s'agit de l'efficacité ? Nous avons eu ici des forces internationales qui n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment des civils, ils n'arrivent pas à les protéger en face de l'attaque de personnes mal intentionnées. Est-ce qu'il va falloir continuer à obtenir des forces internationales à ne rien faire sur le terrain? Et c'est devant eux qu'on a massacré des gens à Zigny, en face d'eux, qu'on a continué de massacrer des gens dans l'Ouest, notamment à Bakangapo. C'est encore en face d'eux qu'à Bois, sinon à Niamey, pour ne pas citer Bangassou et Oboy, on continue de massacrer des gens. Le nombre qu'ils ont, ils ont la possibilité, avec le don, avec tout ce qu'ils ont comme moyen pour surveiller le mouvement des personnes mal intentionnées, ils n'arrivent pas à le faire. Est-ce qu'il va falloir avoir un nombre aussi colossal pour pouvoir justifier la possibilité de neutraliser ou de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont l'intention de détruire ce pays?
Maître Mathias, vous êtes également conseiller au tribunal international de la Haye. Où en est-on dans la mise en place de la Cour spéciale pour la Centrafrique?
La Cour pénale spéciale en République centrafricaine a été créée depuis 2015, mais elle a du plomb dans l'aile parce qu'elle n'arrive pas à décoller. C'est vrai que le budget a été voté, mis en disposition. Il y a des ressources humaines qui sont en train d'être mises en place. Au niveau du procureur, on le connaît déjà. Les juges, certains juges déjà ont été nommés. Maintenant, il reste effectivement le démarrage de cette juridiction qu'on attend depuis 2 ans maintenant.
Maître Mathias Morouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme et conseiller juridique à la Cour pénale internationale.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En Guinée, l'opposition a déclenché une série de marches pour dénoncer le non-respect par le gouvernement des engagements d'octobre 2016. Son mouvement a provoqué des violences en début de semaine à Boké et à Kamsar, où une foule manifestait contre le manque d'électricité. Arzuma Compaoré a joint le rédacteur en chef de la radio Espace Kakandé de Boké, Fodé Omar Camara.
Toutes les collectivités sont en train de signifier ce qui se passe là, parce que Kamsar, avec plus de 40 ans d'existence de la société qu'on appelle la Compagnie des Bauxites de Guinée, vous verrez que Kamsar vit sous forme de black and white. Il y a d'un côté la lumière et de l'autre côté, la ville est plongée dans l'obscurité. La population de cette cité industrielle a demandé à ce qu'il y ait du courant. Et ces jeunes sont aussi sortis dans la rue. Il y a eu 2 morts du côté de Kamsar. Et hier, il y a eu du côté de Kolabou, une localité située au centre jeune, située à 22 km du centre-ville du siège de la préfecture, qui a été aussi la base de la violence. La gendarmerie a été saccagée et incendiée. La police, également le commissariat, a été incendié. La résidence du sous-préfet a été incendiée, la mairie a été complètement incendiée, les archives, on n'en parle plus, le crédit rural a été également incendié par les manifestants, et puis ils se sont dirigés vers la base vie de la société UMS. C'est là où d'autres jeunes qui se trouvent auprès de cette installation sont sortis pour s'imposer pour ne pas qu'il y ait les dégâts deviennent encore énormes.
De l'autre côté aussi, au niveau de Conakry, on réclame des élections communales.
La population réclame la mise en place des remplacements immédiats de présidents de délégations spéciales aux maires de communes. Parce que les maires de communes, ce sont les responsables qui sont élus à la base des collectivités, à la base des citoyens, des peuples humains vivants de cette collectivité. C'est le parti au pouvoir qui bénéficie. C'est pourquoi la population demande à ce qu'il y ait l'organisation immédiate d'élections communales dans tout le pays. Je pense que ce qui est arrivé à l'Antana Conté de 2006 et 2007, si Alpha Condé continue dans cette position, il risquerait de partir très loin parce que les gens en ont marre maintenant. En Guinée, les gens vivent très mal.
Fodé Oumar Camara, rédacteur en chef de la radio Espace Kakandé.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Oui, nous allons au Sénégal, Dakar, une ville saturée avec une population de 3 millions d'habitants. Dans cette capitale sénégalaise, les embouteillages constituent un casse-tête quotidien pour de nombreux automobilistes. Au volant de sa moto jaune, Abba Diatta, journaliste à la radio Zik FM, parcourt la ville chaque jour et informe ses auditeurs en temps réel sur l'état du trafic. Pascal Serra vous présente le récit de Valentin Compaoré.
Il est 7h30 au rond-point Camberen à Dakar. Voitures, taxis, bus, motocyclettes, chacun tente de se frayer un chemin. Lieu de passage obligé pour rejoindre le centre-ville lorsque l'on vient de certaines banlieues, ce carrefour est régulièrement encombré. Téléphone portable collé à l'oreille, Abba Diatta est déjà sur place pour son premier reportage. En direct sur la radio Zik FM, l'une des plus écoutées de la capitale sénégalaise, il informe ses auditeurs sur l'état du trafic.
Voilà, nous sommes ici au niveau du rond-point de Camberen. C'est saturé en ce moment, la grande affluence. Beaucoup de véhicules en provenance de la banlieue sur l'axe de Dakar vers le rond.
C'est pour aider ceux qui veulent progresser vers Dakar. On leur dit que tel endroit est saturé, il ne faut pas passer par là. L'autre est dégagé, passez par là, vous allez économiser et du temps et du carburant.
Depuis 8 ans, ce journaliste sillonne les différentes artères de la ville à la recherche des bouchons. Pour les usagers de la route, fidèles de Traffic News, le métier de Abba est nécessaire, comme le témoigne Gorassar, chauffeur de taxi.
Tôt le matin, je capte la radio Zik FM. La rubrique Traffic News m'indique les zones embouteillées et celles où le trafic est fluide. Ainsi, j'évite les zones difficiles. Traffic News facilite beaucoup le travail des chauffeurs taxi.
En tant que reporter GPS, Abba Diatta collabore aussi régulièrement avec les forces de l'ordre.
La gendarmerie m'appelle pour dire qu'Abba, il y a un accident sur tel tronçon. Il faudra signaler ça sur la route nationale. Ça peut aider. Ça aide souvent les automobilistes à dévier l'endroit où il y a un accident pour passer de l'autre côté, pour progresser tranquillement vers Dakar. Idem aussi pour la police.
Métropole administrative et économique, Dakar concentre près du quart de la population sénégalaise. On y compte près de 2,5 millions de déplacements motorisés chaque jour. Malgré la politique engagée par les autorités pour désengorger la ville, Abba risque de traquer les bouchons encore de nombreuses années.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
Votre soirée ne fait que commencer du Zouk avec Assav. On ne vous oublie pas à VOA Afrique. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, GLS pour les intimes. Kelvin Follower à la console, à la présentation Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt.